Chers amis, depuis quelques semaines, nous réfléchissons sur la question de l'identité. Nous avons vu que Dieu nous appelle par notre nom et qu'il a même gravé notre nom dans la paume de ses mains. Nous avons vu aussi qu'il nous a révélé son nom propre, « Je suis celui qui est », et que Jésus, son Fils, nous a révélé son nom de Père. Dans la prière qu'il nous a donnée, il dit bien « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. » Et nous avons vu aussi que celui qui glorifie le nom de Dieu a son propre nom inscrit dans le livre de vie. Mais que celui qui blasphème le nom de Dieu, son nom est retranché du livre de vie. Ainsi, il y a un lien très fort entre notre nom et le nom de Dieu. N'est-ce pas le propre des amis ? Que de se connaître intimement et de s'appeler par leur nom. Eh bien voilà, cette relation personnelle, amicale entre Dieu et l'homme, est non seulement rendue possible, mais aussi garantie par l'usage du nom. Face à la beauté et à l'importance de cette identité nominale, le nom, nous avons commencé à voir la semaine dernière l'émergence d'une identité numérique, un chiffre. Cette tentation de rationaliser la masse humaine n'est pas nouvelle. Nous avons vu comment le roi David avait pu, sous l'inspiration de Satan, se laisser tenter par le recensement, le dénombrement précisément de tout le peuple. Mal lui en a pris car cela n'a pas du tout plu à Dieu. Le Seigneur qui connaît chacun par son nom n'aime pas qu'on réduise ses enfants à une quantification, à des nombres. Il n'aime pas non plus cette rationalisation à outrance qui fait que l'on s'appuie plus sur ses forces humaines, le nombre impressionnant d'une armée par exemple, que sur sa bénédiction et son aide. La plupart des pays du monde aujourd'hui parlent de mettre en place une identité numérique. Ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire qu'un numéro d'identification sera attribué à chaque citoyen et l'accompagnera toute sa vie. Ce numéro centralisera tout ce qui le concerne, aussi bien ses relations avec l'État que son accès à la santé, à la culture, à sa banque, etc. Le but affiché de ce projet, c'est une efficacité plus grande du fait d'un maillage complet de l'information nous concernant. C'est aussi une rapidité des démarches plus grande, plus fluide, soi-disant, et la revendication d'une plus grande sécurité, notamment des transactions, si l'identité numérique est couplée à de l'argent numérique, comme le projet est présenté. Ça, c'est le côté de la rationalité technique présentée comme facilitant l'organisation sociale, les démarches. D'ailleurs, vous l'expérimentez déjà vous-même sans doute, quand vous donnez une information sur un site, que ce soit l'URSSAF, la caisse d'allocation familiale, la sécurité sociale, les impôts, la banque et que sais-je, vous vous apercevez que les autres sites ont pu récupérer aussi ces informations si vous ne vous y êtes pas opposé. C'est le maillage de l'information grâce à une interconnectivité de tous les processus. De même, vous faites des recherches sur Google où vous recherchez un produit à acheter et aussitôt des publicités arrivent sur votre ordinateur ou votre smartphone vous présentant le même type de produit que vous cherchiez. Il y a donc la face pratique, efficace, qu'on nous présente, et il y a la face plus sombre, celle du marketing ciblé, mais aussi celle du traçage numérique, qui fait que vous êtes à découvert, si je puis dire. Et cela ne peut que déboucher, s'il n'y a pas de puissant garde-fou éthique et juridique, sur une société du contrôle. Une société où chacun est sous l'œil de Moscou, c'est-à-dire en permanence espionné, ou le télécran de Big Brother, selon le roman dystopique de George Orwell, 1984, que je ne peux que vous inciter à lire. Alors, je vais peut-être vous choquer, mais où trouve-t-on l'archétype d'une société fondée sur l'identité numérique poussée à son extrême ? Vous allez peut-être me dire en Chine, avec le crédit social où chacun est repéré et espionné en permanence, suivi dans tout ce qu'il fait, achète, pense et dit. Et s'il n'agit pas selon la ligne du parti, eh bien son crédit social diminue. Le crédit social, c'est comme un système de permis à points en fait. Dès que vous faites quelque chose de travers, vous perdez des points et ensuite des choses vous sont interdites. Par exemple, voyager, faire des études, etc. Et vous finissez par être un vrai paria de la société. On pourrait donc penser que la Chine est le parfait modèle d'une société fondée sur la rationalisation et la numérisation à outrance des citoyens. Mais il y a eu bien pire. Moi, je vois dans les camps de concentration de l'Allemagne nazie le modèle absolu d'une société basée sur l'identité numérique. Et ce n'est pas un hasard. Une société qui réduirait ses citoyens à n'être plus que des nombres deviendrait de fait quelque chose à l'image de ces camps de concentration allemands. Souvenons-nous de ce qui s'est passé. Des multitudes d'hommes, femmes et enfants arrivaient entassés dans des wagons à bestiaux dans les camps. Durant le voyage de déportation, ne leur avait donné ni à boire ni à manger. Beaucoup mouraient déjà dans les trains tellement ils étaient entassés, épuisés et dénutris. Arrivés dans les camps, ils étaient accueillis par des SS avec des chiens et des matraques, triés comme du bétail. Certains étaient parqués pour les chambres à gaz, les autres, les bien portants, pour le travail de forçat. Les trois choses qu'on leur imposait à l'arrivée dans les camps, c'était premièrement la nudité. Ils devaient se déshabiller intégralement pour ensuite revêtir un uniforme qui les rendait tous semblables. Deuxièmement, le tatouage. Chacun était tatoué d'un numéro sur l'avant-bras, comme les bêtes. Ils perdaient leur nom et n'étaient plus que ce matricule. Troisièmement, ils étaient tondus. Tout cela contribuait à les avilir, à les déshumaniser totalement. Ils devenaient une masse informe, sans racines, sans histoire, sans visage distinctif du fait de l'absence de cheveux, sans caractéristiques propres, différenciées seulement par le numéro tatoué sur leurs bras. Du bétail parqué dans des baraquements et corvéable à merci, jusqu'à ce que l'épuisement les mène lors de la sélection suivante dans les chambres à gaz. Aujourd'hui, on pourrait se demander « Quelle folie collective s'est emparée de l'Allemagne nazie pour en arriver là ?» Mais était-ce une folie ? Non. Ce n'était ni une folie, ni un massacre sauvage sous le coup d'une flambée délirante. C'était au contraire quelque chose d'éminemment rationnel. Une rationalité poussée à son extrême à partir d'une idéologie. Ce qui a été mis en place a demandé une organisation hautement rationalisée, planifiée, technique, performante. Ce n'était pas un système fou, ce qui nous dédouanerait de penser que cela pourrait se reproduire. Mais c'était la mise en place d'une véritable industrie de la mort. Et une industrie, cela demande beaucoup de techniques, prévisions, anticipations. Ce n'est pas une mise à mort artisanale, mais de masse, avec la nécessité d'un rendement sans cesse amélioré. Et pour que cette industrie de la mort fonctionne bien, sans que personne ne s'y oppose, il était nécessaire de déshumaniser ceux qu'on voulait faire disparaître. D'où la manière extrêmement bien pensée, notamment du tatouage. Il n'était plus que de la chair, du bétail. La faim, la soif, la maigreur, la saleté en plus, car ils n'avaient pas de savon et de shampoing là-bas, finissaient de les avilir, pour qu'il apparaisse à tous normal qu'on se débarrasse de ces êtres qui n'étaient apparemment plus humains. Je vous ai dit la semaine dernière que Satan avait été à l'origine de la suggestion faite au roi David du dénombrement du peuple. C'est en tous les cas ce qui est écrit dans le livre des Chroniques. Nous ne sommes évidemment pas dans le même contexte avec l'époque du Troisième Reich allemand, mais je pense qu'on ne peut pas douter ici de l'origine démoniaque de l'idée des camps de la mort. On ne peut pas douter que Satan soit derrière cette entreprise de rationalisation extrême de la mort, cette manière bien pensée, numérisée, cette logique organisationnelle mise en œuvre pour cette industrie de liquidation de millions de personnes. Georges Bernanos disait « La logique du mal est stricte comme l'enfer. Le diable est le plus grand des logiciens, ou peut-être, qui sait, la logique même. Réfléchissons à cela, frères et sœurs. Nous avons toujours tendance à voir la signature de Satan dans les massacres, le déchaînement de la violence, la guerre. Mais nous ne pensons peut-être pas assez qu'il peut être aussi dans les processus de rationalisation, d'organisation, de contrôle, dans les rouages des institutions étatiques quand ces mêmes institutions se mettent au service de la discrimination de certaines catégories de citoyens. Par exemple, comme nous avons pu le voir durant les années 39-45 en Allemagne, mais comme nous avons pu le voir aussi ces dernières années pour des motifs sanitaires, où on nous a dit que les non-vaccinés ne méritaient peut-être pas d'être considérés comme des citoyens à part entière. On ne peut douter non plus, je crois, que Satan soit derrière cette idée de déshumaniser des êtres humains en leur retirant leur nom et en les marquant d'un chiffre. Hier, c'était un matricule tatoué sur le bras. Demain, est-ce que ce sera une identité numérique qui nous mettra dans une autre forme de camp de concentration? Des camps de concentration numériques, bardés de technologies indolores de surveillance, où nos libertés seront tellement restreintes. Et cela sans la nécessité de barbelés, de soldats, de tanks. Je crois qu'il nous faut être vigilants. Peut-être que vous vous dites que c'est un peu osé de faire un parallèle entre la logique des camps de concentration et la logique de notre technologie numérique, entre le chiffre tatoué sur le bras hier et l'identification numérique aujourd'hui. Mais je voudrais vous citer le pape Benoît XVI, en fait, pour être plus exact, une intervention du cardinal Ratzinger à Palerme le 15 mars 2000. Donc quand il n'était pas encore pape. Voilà ce qu'il disait. Et il me semble que c'est très très intéressant ce qu'il dit. L'Apocalypse parle de l'antagoniste de Dieu, la bête. Cet animal n'a pas de nom, mais un numéro. Dans leur horreur, les camps de concentration ont effacé les visages et l'histoire, transformant l'homme en numéro, le réduisant à un rouage dans une énorme machine. L'homme n'est plus qu'une fonction. De nos jours, nous ne devrions pas oublier que ces camps de concentration préfiguraient le destin d'un monde qui court le risque d'adopter la même structure que celle des camps de concentration, si la loi universelle des machines était acceptée. Les machines qui ont été construites imposent la même loi. Selon cette logique, l'homme doit être interprété par un ordinateur, ce qui n'est possible que s'il est converti en nombre. La bête est un nombre et transforme en nombre. Dieu, quant à lui, a un nom et nous appelle par notre nom. Il est une personne et recherche des personnes. Voyez, le futur pape Benoît XVI a bien vu le danger d'un monde technicisé où la bête, l'adversaire et l'antagoniste de Dieu, marque les hommes de son sceau, un chiffre, dans le but d'en faire ses choses à lui, ses esclaves, et de les annihiler. Là où Dieu, lui, marque du sceau de la croix ceux qui lui appartiennent pour les rendre participants de sa divinité. Il faut bien avoir à l'esprit que Satan, qui est comme le père spirituel de la bête, pourrait-on dire, Satan donc a de la haine pour les hommes, car les hommes ont été créés à l'image et ressemblance de Dieu. Et Satan est Dieu, du verbe « haïr ». Et comme il veut la mort de Dieu, ce dont Nietzsche se faisait le prophète au XIXe siècle, il veut aussi la mort de l'homme, donc sa déshumanisation et donc sa réduction à du bétail tatoué d'un chiffre. Troupeau parqué pour les enfers et que la mort mène paître, comme dit le psaume 48. En fait, ce que Satan veut, c'est que les hommes soient à son image et à sa ressemblance à lui. Et lui n'a pas de nom, mais il a un chiffre, comme il nous est dit dans l'Apocalypse au chapitre 13. Le chiffre de la bête, c'est 666. Et la bête est comme la manifestation étatique de Satan. Et elle désire marquer de son chiffre tous les hommes. Elle désire ainsi réduire les êtres humains à des choses, des produits. Au chapitre 18, verset 13 de l'Apocalypse de Saint Jean, il nous est parlé du grand péché de Babylone. Babylone qui est le symbole des grandes villes irreligieuses du monde. Ce péché, c'est de faire le commerce des corps et des âmes et de les traiter comme des produits. Je cite l'Apocalypse. Les trafiquants de la terre se désolent car nul désormais, suite à la chute de Babylone, nul désormais n'achète plus leur cargaison d'or et d'argent, les tissus précieux, la farine, les bestiaux et les moutons, les chevaux, les chars, les esclaves et la marchandise humaine. Et oui, au temps de la splendeur de Babylone, tout se vend, tout s'achète, tout est calculé, mis en chiffres, commercialisé, rentabilisé. On peut même écouler de la marchandise humaine. Mais quand Babylone tombe, plus personne n'achète cette marchandise humaine. Aujourd'hui, quand j'entends dans les médias qu'il existe dans certains pays des plaques tournantes de trafic d'enfants vendues pour des réseaux de pédophilie ou des trafics d'organes humains, je me dis que Babylone, la ville des chiffres, des calculs, du commerce de marchandises humaines, malheureusement, n'est pas encore tombée. Satan est toujours bien à l'œuvre. Et aujourd'hui, par la technologie et sous couvert de motifs d'efficacité, de sécurité, ou même du fun, mais derrière c'est surtout de rentabilité et de contrôle dont il est question, je pense que Satan continue à en inspirer certains. Il y a des tentatives comme cela d'implantation de puces électroniques sous la peau, entre l'index et le pouce, pour des motifs pratiques et à la mode dans certains pays. Par exemple, je lisais ça là, dans un club discothèque de Barcelone, la carte VIP a fait place à la Very Chip, une puce électronique que l'on implante sous la peau et qui contient notre identité chiffrée. Avec elle, plus besoin de faire la queue ou de sortir sa carte de crédit puisqu'elle permet aussi de payer les consommations. Pour 125 euros, un médecin vous injecte dans le bras une capsule de la taille d'un grain de riz à l'aide d'une seringue hypodermique. C'est présenté comme ludique, pratique. Mais si ça devenait la norme, alors nous serions redevenus du bétail tatoué, mais électroniquement cette fois-ci. Et celui qui refuserait ce marquage deviendrait immédiatement un paria, mis au ban de la société, ne pouvant plus vivre puisque ne pouvant plus acheter ni vendre, comme dit l'Apocalypse. Il faut quand même être attentif au fait que pendant des années, les animaux, notamment les chiens, étaient tatoués avec de l'encre. Et c'est ce qu'on a fait dans les camps de concentration pour les hommes. Aujourd'hui, les animaux, les chiens, ne sont plus tatoués avec de l'encre, mais on leur implante une puce électronique sous la peau, en guise de tatouage. Eh bien, on dirait que certains seraient assez heureux d'utiliser le même procédé pour marquer les hommes. Sur TF1, donc pas un site conspirationniste, j'ai vu qu'était évoqué un projet scientifique dans le domaine de la santé. C'est une équipe de scientifiques du MIT, un institut de technologie du Massachusetts, donc américain, qui a annoncé avoir mis au point un procédé révolutionnaire. Au lieu d'implanter une puce électronique, des nanoparticules sont injectées sous la peau via une seringue spéciale. Ces nanoparticules ont la particularité, précisément, d'émettre une lumière fluorescente imperceptible à l'œil nu, mais visible depuis l'écran d'un smartphone qu'on met contre. Concrètement, l'idée est d'établir sur le corps lui-même la preuve que vous avez bien été vacciné, le vaccin contre la rougeole ou autre. notamment dans les pays en voie de développement où les cartes de vaccination en papier sont souvent incomplètes et où les dossiers médicaux électroniques n'existent évidemment pas. Pour l'instant, la technologie a été testée uniquement sur des rats, mais les chercheurs espèrent la tester sur des humains en Afrique dans les 2 prochaines années. Nos pauvres frères africains seront encore les cobayes de nos entreprises technico-pharmaceutiques. Voilà, on part toujours avec des bonnes intentions pour la santé, pour l'efficacité vaccinale ici. Mais on se retrouve avec une technologie de plus en plus intrusive qui ressemble assez au marquage des bêtes. D'autre part, j'avoue que je reste un peu perplexe devant le nom de ce produit fait de nanoparticules fluorescentes qu'on injecterait sous la peau, lorsque je vois qu'il a été breveté sous le nom de luciférase. Alors on peut comprendre. Lucifer, cela veut dire étymologiquement « porteur de lumière ». Lucifer était avant sa révolte contre Dieu et sa chute le plus bel ange qui portait la lumière, mais qui maintenant porte les ténèbres. Or, comme ce produit injecté sous la peau émet une lumière fluorescente, on n'a pas trouvé mieux que de l'appeler luciférase. Cependant, il y a assez peu de chances que cela soit anodin ou un simple hasard de la part des concepteurs. Cela ressemble plutôt à la queue du serpent, à laquelle on reconnaît qui se cache derrière les meilleures intentions apparentes. Oui, Lucifer se présente toujours comme un ange de lumière pour tromper son monde. Mais nous savons qu'il est passé du côté des ténèbres et qu'il œuvre au service des ténèbres. Donc, n'acceptons pas toute technologie sous prétexte qu'elle est nouvelle, pratique, efficace et que grâce à elle, notre vie sera plus confortable. Car ce pourrait bien être là une tentation, précisément. Je crois qu'il faut savoir préférer la liberté au confort, si on veut rester des êtres humains dignes de ce nom. Car tout ce qui est possible, et qu'on nous présente comme apparemment désirable, n'est pas pour autant bon. Et il ne faudrait pas que nous nous prosternions béatement devant les idoles de ce monde, les idoles du progrès technologique, sans réflexion éthique. Demandons-nous toujours, qu'est-ce qui sert l'homme? Qu'est-ce qui est au service de son humanité, de sa croissance dans le bien, dans la vérité? Mais qu'est-ce qui peut aussi le desservir, ou même l'asservir? Et cela dépend beaucoup de l'idée que l'on se fait de l'homme, c'est-à-dire d'une certaine anthropologie. L'homme n'est-il qu'un numéro? Et alors on peut s'en servir dans une visée utilitariste ou s'en débarrasser sans scrupule au nom du collectif. Ou bien l'homme est-il si sacré qu'aucune règle arithmétique ne doive s'appliquer à lui? Autrement dit, l'homme est-il un zéro ou un infini? Nous terminerons sur ce thème la semaine prochaine en évoquant une certaine confrontation de puissance entre d'une part le monde du chiffre de la bête et d'autre part le monde de Dieu et de son saint nom. Confrontation de puissance dans laquelle les hommes sont emportés, mais dans laquelle ils doivent aussi se positionner s'ils veulent garder leur nom et ne pas devenir un simple numéro.